7h-9h, Matin Première.
Il est 7h47, il se dit stupéfait de la situation, se pose beaucoup de questions sur la transparence dans toute la saga Nethys Publifin. Le patron d'Orange Belgique est l'invité de la matinale, Thomas Gadisseux, il monte au créneau ce matin.
Oui, Michael Trabia a suivi avec attention les derniers rebondissements de cette histoire et on rappellera, hein, François, pour planter le décor, que l'opérateur télécom VOO doit donc normalement être vendu par Nethys à un fonds d'investissement américain. Providence, ça a été signé en toute discrétion en mai dernier. Problème, les différents actionnaires publics, dont l'intercommunal Enodia ex-Publifin, doivent encore marquer leur feu vert. Or, les conditions du deal suscitent le débat. Un conseil d'administration d'Enodia pourrait d'ailleurs remettre en cause tout cet accord commercial cette semaine. Orange avait manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour acquérir justement une part de l'entreprise de VOO. Qu'en est-il ? Réponse peut-être ce matin.
Bonjour Michael Trabia.
Bonjour.
Vous vous dites stupéfait de cette situation, pourquoi ?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas les voir. Moi, pour ma part, je fais confiance au gouvernement wallon et au conseil d'administration d'Enodia pour faire toute la transparence et prendre les bonnes décisions.
C'est ça les questions qui se posent ? C'est des questions de transparence essentiellement ?
Il y a des questions de transparence, des questions de choix et de projet finalement. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est quel est le projet pour Nethys ? Et je rappelle qu'Orange avait mis sur la table un projet qui est un projet industriel. Un projet de long terme, un projet qui est dans l'intérêt non seulement des actionnaires, mais aussi des salariés et des clients, et au fond, du développement numérique de la Wallonie.
Alors, une piste est sur la table, un rachat par un fonds d'investissement américain, Providence. Vous comprenez cette logique que des Liégeois se fassent racheter par des Américains dans le secteur des télécoms en Belgique ?
Dans notre secteur, il peut y avoir des achats, des acquisitions. Ce qu'on constate souvent, c'est que les rachats se font de plus en plus entre opérateurs au sein d'un pays. Entre opérateurs fixes et opérateurs mobiles. C'est ce genre d'opération auquel on assiste le plus dans notre secteur en Europe.
Là, c'est une opération financière, en fait. C'est pour être revendu encore par après.
On voit bien qu'un fonds d'investissement a une logique financière, effectivement, une logique de sortie à quelques années. De notre côté, encore une fois, on a un vrai projet industriel. Mettre ensemble le réseau fixe de Nethys et le réseau mobile d'Orange, on pense que c'est comme ça qu'on peut créer le plus de valeur pour l'ensemble des clients et des actionnaires.
Vous avez l'impression que les dirigeants de Nethys cache certaines choses ?
Je ne peux pas le dire. En tout cas, ce que je constate, comme beaucoup, c'est qu'il y a un nombre très important de questions aujourd'hui qui est sur la table, qui ne sont pas encore répondues à ce stade.
On met en avant la question de la confidentialité dans ce genre d'opération commerciale. On ne peut pas tout dire aux différents actionnaires parce que le deal est en cours. Est-ce que ce sont des pratiques normales ?
Qu'il y ait des questions de confidentialité dans des opérations de ce type, bien entendu. Maintenant, en général, c'est vrai qu'on fait appel à des banques d'affaires pour gérer ce type de vente, d'acquisition.
Et si pas de banque d'affaires, donc c'est pas normal ?
Je ne sais pas, je n'ai pas eu accès à ce qu'a fait Nethys.
On vous sent quand même prudent. Alors l'opérateur, VOO, est donc détenu par plusieurs intercommunales. C'est ça la complexité du dossier. Il y a d'un côté les Liégeois avec Enodia, mais aussi Brutélé qui regroupe des communes bruxelloises, Énuyères, bref, il y a beaucoup de monde dans cette histoire. Et ce monde est en train de se poser des questions et pourrait monter au créneau. Différentes réunions, notamment par exemple ce soir, la province de Liège se réunit. Mercredi, ce sera le conseil d'administration de l'intercommunale liégeoise. Est-ce que selon vous, ce deal peut encore capoter ? Est-ce que c'est faisable ?
Écoutez, tant qu'un deal n'est pas finalisé, closé, comme on dit, il peut encore évoluer. Maintenant, ce qui est important, je crois, c'est que l'intercommunal, le conseil d'administration d'Enodia ait toutes les informations et puisse prendre les bonnes décisions. Encore une fois, il y a des projets alternatifs sur la table et moi, je suis là pour le défendre.
Vous les encouragez à se rebeller, entre guillemets ?
Je ne les encourage à rien. C'est à eux qui ont la compétence, c'est à eux de prendre leurs décisions, c'est à eux de demander les informations auxquels ils doivent avoir accès.
Qu'est-ce qu'Orange propose, du coup ?
Orange propose simplement un projet industriel. Encore une fois, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans le pays. On n'est pas là pour sortir dans 2 ou 3 ans. On est là pour apporter le meilleur service aux clients de Nethys, aux clients de VOO et aux clients d'Orange. Un point simple. Est-ce que vos auditeurs qui sont abonnés aujourd'hui à VOO ont envie de voir leur prix augmenter dans les prochaines années ? Il faut bien voir que quand on arrive avec un investissement financier, il y a bien un moment où on doit le récupérer. Et donc, soit on fait monter les prix, soit on fait baisser les coûts.
C'est ce que vous suspectez avec cette opération du fonds d'investissement américain. C'est comme c'est un deal financier. À un moment donné, on rachète, on va faire monter les prix, monter la sauce, entre guillemets, pour ensuite revendre.
C'est pour ça que, ce que je disais tout à l'heure, la plupart des opérations en Europe se font aujourd'hui au sein d'un pays, entre opérateurs fixes et opérateurs mobiles, puisque là, effectivement, on peut apporter plus de services aux clients en mettant ensemble des services fixes et des services mobiles. On peut vendre, nous par exemple, des services câblés aux clients Orange, et on peut vendre les services mobiles d'Orange aux clients du câble de VOO.
Michael Trabia, patron d'Orange Belgique, on rappelle, vous avez commencé en disant « j'ai toute la confiance en le monde politique wallon, le gouvernement qui est aux manettes, la tutelle aussi des pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Reprenez les rênes de cette histoire. Ça fait trois ans presque que la saga a éclaté.
» Je crois qu'ils n'ont pas besoin que je leur donne de conseils. On voit bien qu'ils sont très actifs sur ce dossier, ils sont très vigilants. Je ne suis pas certain que ça leur échappe. C'est un gouvernement qui a été nommé il y a une dizaine de jours. Je crois qu'ils sont très actifs sur ce sujet aujourd'hui.
Et donc, votre offre pourrait correspondre aux exigences des pouvoirs publics, selon vous ?
J'en suis convaincu. Je pense que notre offre est la meilleure qui est aujourd'hui sur la table, à la fois pour l'emploi, encore une fois, pour les clients, mais aussi pour les salariés. Je crois que, de notre côté, nous n'avons pas, par exemple, de réseau câblé. Donc, nous n'avons pas d'emploi en redondance avec l'emploi chez Nétis VOO.
Donc si ça capote, vous êtes dispo, entre guillemets, toujours dispo, Michael Trabia.
Notre projet reste sur la table, en effet, je le confirme ici.
Michael Trabia, vous êtes le patron d'Orange Belgique, l'invité de la matinale. L'autre affaire qui a secoué les télécoms ces dernières semaines, c'est Dominique Leroy qui quitte Proximus pour rejoindre l'opérateur néerlandais KPN, en partie, c'est pas la seule raison, mais en partie parce que son salaire est plafonné ici en Belgique. Vous comprenez cette motivation-là ?
Alors... vous savez, on est concurrent avec Proximus, on est concurrent avec Dominique Leroy, ça ne m'empêche pas d'avoir du respect pour elle et d'avoir du respect pour la dirigeante qu'elle est. Je ne suis pas certain, honnêtement, en tout cas moi en tant que CEO, le salaire n'est qu'un des éléments
mais c'en est un, quand même.
De la motivation. Forcément, c'est un élément, mais ça n'est certainement pas le seul.
C'est la situation complexe chez Proximus, c'est que l'actionnaire principal, c'est l'État. Il a fixé à un moment donné un salaire plafond pour le top manager de l'entreprise. Et on dit maintenant, ça sera compliqué d'en trouver un nouveau en Belgique, vu cette situation. C'est vrai, ça? C'est le contexte des grands patrons télécoms européens fait exploser comme ça ces salaires en Europe?
Il y a des salaires qui peuvent être très élevés. Après, est-ce qu'on sera incapable de trouver un grand patron pour Proximus? Moi, je ne le crois pas. Je pense que c'est une entreprise qui, effectivement, est une belle entreprise. Et je suis certain que le conseil d'administration trouvera un CEO, y compris avec les limitations.
Et dans un secteur aussi concurrentiel que les télécoms en Europe, est-ce que c'est normal que l'État soit encore actionnaire majoritaire d'une telle entreprise et puisse fixer comme ça des règles? Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe aussi, un bug qui justifie ce débat-là?
C'est une vraie question. L'État est toujours très présent dans les télécoms, dans tous les pays, parce que ça intéresse les citoyens, parce que c'est important pour la compétitivité des entreprises.
C'est le cas en France, par exemple.
C'est le cas en France. Après, est-ce que l'État doit être au capital et jusqu'où est-ce qu'il doit être au capital? Ça, c'est une autre question. Dans beaucoup de pays, l'État est sorti progressivement du capital, ou en tout cas n'est plus majoritaire dans la plupart des pays dans le capital des opérateurs historiques.
Ouais, pour parler chiffres, le salaire de Dominique Leroy, tout compris, on va dire, était de 940 000 euros par an. Pour vous, c'est pas suffisant? C'est pas un assez beau salaire pour diriger une entreprise comme Proximus?
Non, je crois pas que ce soit la question. Et encore une fois, je suis convaincu que le gouvernement, ou en tout cas le conseil d'administration, parce que c'est le conseil d'administration qui doit nommer le CEO, trouvera quelqu'un de très compétent. Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur le salaire.
Mais on peut vous demander, vous, Michael Trabia, combien vous gagnez à la tête d'Orange Belgique?
Oui, bon, mon salaire est public. L'année dernière, j'ai touché tout compris, encore une fois, pour prendre des éléments comparables, un peu plus de 600 000 euros.
Alors, juste un autre dossier qui anime le secteur des télécoms, c'est la question de la 5G. Peut-être certains auditeurs sont en train de nous écouter en streaming pour l'instant, via leur smartphone avec la 4G. Selon la Commission européenne, en gros, chaque État membre devra proposer une couverture 5G dans au moins une ville d'ici 2020. Chez nous, j'ai envie de dire forcément, ça bloque. Pourquoi? Quels sont les blocages actuellement? Pourquoi on n'est pas capable là de mettre en place cette 5G, notamment à Bruxelles?
Notamment à Bruxelles. Alors, le premier problème, c'est les fréquences. Aujourd'hui, nous n'avons pas les fréquences 5G, elles n'ont pas été mises aux enchères, comme on dit. Et donc, on est dépendant du prochain gouvernement qui devra lancer ce dossier. Et une fois qu'on aura les fréquences, il y aura effectivement, vous l'avez souligné, Thomas Guédisseux, la question des normes. Et en particulier à Bruxelles, où on sait qu'elles sont extrêmement sévères et que ces normes, aujourd'hui, nous empêcheraient de déployer la 5G, quand bien même nous aurions les fréquences.
Donc on dépend d'un côté du gouvernement fédéral pour l'octroi des fréquences, et de l'autre côté, notamment à Bruxelles, sur le gouvernement bruxellois, pour la question des normes. Comment on va résoudre ce blocage? Est-ce qu'à un moment donné, c'est possible de sortir de l'impasse? 2020, c'est très proche en termes d'investissement dans les technologies.
2020, c'est très proche. Après, est-ce qu'on sera capable de lancer la 5G en 2020 en Belgique? Aujourd'hui, ça paraît extrêmement improbable.
Ou dans une autre ville que Bruxelles? Anvers, par exemple?
En tout cas, la question des normes se pose différemment effectivement en Flandre, mais le sujet n'est pas qu'un sujet de normes. Le sujet, donc, il faut travailler ensemble, gouvernement fédéral et gouvernement régional, pour pouvoir lancer cette 5G. Et je rappelle qu'on en a besoin, pas seulement pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises.
Et quelles seront justement les conséquences pour nous, utilisateurs, pour le tissu économique? En quoi cette 5G peut révolutionner, entre guillemets, notre quotidien?
Bien sûr. Les utilisateurs, le premier usage, il est très simple. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus nos smartphones, on utilise de plus en plus de data. Pour vous donner un chiffre, la consommation moyenne de nos clients a augmenté de l'ordre de 70% en un an, la consommation moyenne d'un client. Donc il faut plus de fréquences, plus de capacités pour pouvoir suivre cette augmentation des usages qui va continuer. Et puis pour les entreprises, c'est des questions de compétitivité. Aujourd'hui, les entreprises, et moi je discute beaucoup avec des grandes entreprises, y compris des filiales de grands groupes internationaux, qui ont besoin de la 5G pour des usages autour de l'industrie 4.0, de l'Internet des objets, des villes intelligentes.
Mais s'il y a des normes, c'est qu'il y a une question de santé aussi derrière, de santé publique. Comment vous rassurez alors justement ceux qui sont inquiets de cette explosion de la 5G?
Bien sûr, il y a des normes mondiales, elles sont définies par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Après, je ne suis pas certain qu'il y ait des problèmes de santé différents à Bruxelles, en Flandre, en Wallonie ou dans le reste de l'Europe.
Mais la 5G, donc, c'est pas mauvais pour la santé? Il n'y a pas d'effet néfaste sur la santé?
Il n'y a pas d'effet qui ont été démontrés sur la 5G ou sur les autres technologies hertziennes. Donc aujourd'hui, nous sommes clairement dans une situation où on peut déployer ces technologies. Il n'y a effectivement, on attend que les autorisations pour pouvoir le faire.
Michael Trabia, Orange est un challenger entre guillemets sur le marché belge, hein, entre deux poids lourds, Proximus, Telenet. Et comme tous les opérateurs, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce bientôt la fin des fameux décodeurs TV? Nous sommes, nous tous, beaucoup d'utilisateurs, en tout cas, à se poser la question, faut-il encore un fameux abonnement télé là ou Internet, hein, Ovio, notamment Netflix, nous permet de visionner tout ce qu'il faut. C'est la fin des décodeurs TV? Vous y préparez, en fait?
On s'y prépare, et d'ailleurs, on a lancé en juillet une offre sans décodeurs télé, Love Duo, qui surfe effectivement sur cette vague. On voit bien qu'il y a une tendance lourde. Aujourd'hui, les utilisateurs regardent la télé différemment. Ils passent par Ovio, ils passent par les applications over the top pour accéder à leur contenu.
Quelle sera encore l'utilité alors du coup d'avoir autant d'opérateurs si ce n'est que pour fournir juste Internet aux clients, entre guillemets?
Mais notre métier de base, c'est de fournir l'accès. L'accès à Internet effectivement à nos clients, mais aussi, pourquoi pas, de distribuer des contenus. Ce n'est pas parce que le décodeur va être amené à disparaître un jour qu'on n'a pas un rôle à jouer dans la distribution aussi de ces contenus.
Michael Trabia, vous êtes le patron d'Orange Belgique et vous étiez l'invité de la matinale. Merci beaucoup. Merci à vous, Thomas Gadisse.
Merci. Oui, merci.